Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 27. Voici Marie Mollet,
Stéphane Carpentier,
Laurent Tessier, Brice Dugy, Greg Caranoni et Cyprien Cini.
Il y a même Cini ce soir.
Normalement,
hein.
Il lève les bras
autour
du son.
C'est un peu comme si je rentrais dans le vélodrome en fusion.
Ouais. Hein. C'est parti jusqu'à 20h.
C'est jusqu'à 20h, on commente l'actualité, bien sûr, actualité détendue. On vous apprend des choses, mais dans la bonne humeur. 19h17, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous commentez, vous réagissez, vous avez les réseaux sociaux, le compte Twitter de l'émission, la page Facebook de l'émission. C'est parti, voici le sommaire.
Astérix dans l'espace, c'est pas une BD mais la réalité. Ce soir, vous saurez comment les armées du monde entier se préparent à la guerre des étoiles. Twitch, Facebook, Snapchat, TikTok, les politiques envahissent les réseaux sociaux. Réel impact ou simple phénomène de mode, on allumera la lumière sur le sujet. Comme tous les vendredis, le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, direction le Brésil avec un président complètement en roue libre.
Oui, arrêtez de pleurnicher, nous dit Bolsonaro, alors qu'au Brésil, la pandémie explose.
Le billet retour, quand on revient sur une info qui a disparu de la circulation. Et Brice, visiblement, il vous manque déjà, hein, puisque vous donnez des nouvelles ce soir du retraité le plus célèbre de la planète.
Oui, Donald Trump, et avec lui, ça swing, pas que sur son parcours de golf.
Joli.
D'ici 20h, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, vos initiatives avec un sandwich rillette, pas comme les autres. Je vous préviens, rester. Hein. Et évidemment, le cadeau, une tablette connectée dernière génération pour toute la famille. La terrible question du jeu. Ouh, ce sera vers 19h40. On défait le monde. Saison 2, épisode 27.
Allez, hop, on y va.
On défait le monde dans RTL Soir.
Ça me fait peur, vous êtes très en forme ce soir. Avant le surf, les Césars, puisque à partir de 20h, RTL vous fait vivre en direct la cérémonie des Césars. Mais tout au long d'On défait le monde, on va vous faire vivre les derniers préparatifs de la fête du cinéma français.
Mais oui, on est sur l'info. Donc du coup, toute la soirée, quand vous entendrez... Ça voudrait dire qu'il faut aller voir Stéphane Koutsok, le monsieur cinéma de RTL, dans les coulisses de la cérémonie. Bonsoir Stéphane.
Gros, énorme production. Le
Il y a des gros moyens, Stéphane.
Ah, c'est incroyable, c'est les Avengers, quoi.
Ah bah ouais, exactement. Bonsoir, tout le monde. Bon, alors vous avez vu des stars passer déjà, il y a du lourd.
Alors, pour tout vous dire, on va pas se mentir. Ça commence à bien. Non mais si, écoutez, la cérémonie commence à 21h, nous on prend l'antenne dès 20h, donc là autant vous dire qu'on est à peine dans le tour de chauffe, donc si je vous dis que j'ai vu passer Jackie Jombi et Martine Groussard, ça vous intéressera beaucoup, parce que les stars, les vedettes, les cadors vont arriver à partir de 20h. Mais je guette, promis, je suis au balcon, je peux rien rater.
Bon, dès qu'il se passe quelque chose, on n'hésite pas.
On revient avec la petite musique. Voilà. On y va pour le surf de la semaine, c'est avec Cyprien qui surfe tous les matins du lundi au vendredi, 6h40, juste avant 8h.
Voilà.
Et le vendredi, c'est surf de la semaine, les temps forts.
Et ce soir, on commence tout de suite par le lapsus de la semaine, parce qu'il est collector. Il est signé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, écoutez bien.
La ministre de la Mer a présenté deux ordonnances. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi sur l'enlèvement des EHPAD, des épaves.
Ah oui, EHPAD à la place d'épave, il fait mal. Il est tellement beau qu'on revoit l'action au ralenti.
La ministre de la Mer a présenté deux ordonnances. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi sur l'enlèvement des EHPAD, des épaves.
J'adore. Sinon, la politique a parfois ses raisons que la raison ignore. Le chef du PS, Olivier Faure, nous explique, la main sur le cœur, depuis 3 ans.
Nous ne sommes ni Macron ni Mélenchon, nous sommes socialistes et nous allons le rester.
Alliance avec personne, nous sommes socialistes, surtout pas Mélenchon. Mélenchon, justement. À propos des socialistes et des Verts, il dit quoi, lui ?
Parti socialiste, et je sais pourquoi je l'ai quitté en 2008. Le problème avec les écologistes, pour nous, c'est pas l'écologie, c'est le social. Et c'est la rupture avec le capitalisme.
Socialiste et écolo, pas possible. Et Yannick Jadot, l'écolo, sur ça, il dit quoi, lui ?
Jean-Luc Mélenchon, il incarne une pensée politique, il incarne un logiciel politique qui n'est pas le mien.
Rien à voir avec Mélenchon, il veut rien avoir. Vous l'avez compris, ces gens-là sont donc totalement incompatibles. Hein, il le crie sur tous les plateaux télé, radio. Et cette semaine, annonce d'Olivier Faure.
Nous sommes en réalité tout près de l'accord avec les insoumis, les communistes, les verts, avec toute la gauche et les écologistes.
Eh oui, Kin, carton plein de mon Diovino. Tous ensemble, main dans la main pour les régionales dans les Hauts-de-France. C'est fou et c'est beau à la fois, c'est la politique. Bon, sinon, le moment gênant de la semaine, il est pour Marine Le Pen. Définition de xénophobie, hostilité envers les étrangers. Bon, et bien pour contrer les accusations de xénophobie, d'hostilité envers les étrangers, donc, argument massu de Marine Le Pen hier sur BFM.
Je conteste évidemment formellement cette accusation. Quand vous voyez que je suis arrivée en tête en Outre-mer, vous vous rendez compte que ces accusations de xénophobie n'ont aucun sens.
Oui, alors note pour plus tard, les Outre-mer, c'est pas l'étranger, c'est encore la France. Et oui, tiens d'ailleurs, un peu de rêve et d'espoir pour finir. Hier, Olivier Véran, catastrophique à Paris.
Situation que je qualifie de tendue et inquiétante. Toutes les 12 minutes, un francilien est admis en lit de réanimation en Île-de-France.
Et au même moment, à 15 000 km de là, à Tahiti, en France, hein, donc pour Marine Le Pen.
À l'hôpital, le nombre de personnes en réanimation est de 3 et celui des personnes hospitalisées pour cause de Covid de 7 permettra aux bars qui n'avaient pas d'activité de restauration de rouvrir.
La réouverture des bars, des réas quasi désertes. Oui les amis, la lumière est au bout du tunnel et en attendant, eh ben, vivement la semaine prochaine, on finira par la trouver.
Vivement la semaine prochaine, Cyprien Sini, notre surfeur, et bien sûr vous réagissez, vous commentez vous aussi sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, la page Facebook, comme le fait Thomas par exemple, qui nous dit que c'est une émission pétillante le vendredi soir.
Champagne.
RTL Soir, on défait le monde.
La grosse info de ce soir, c'est Astérix, donc la guerre des étoiles.
Oui, car Brice, vous avez aiguisé notre curiosité ce matin à 7h30 sur RTL, je vous écoutais. Du coup, on a envie d'en savoir plus. Alors, je résume. La France a donc un commandement de l'espace basé à Toulouse. Emmanuel Macron est allé le visiter aujourd'hui. Mm-hmm. Cette semaine, ils ont fait leur premier exercice spatial, ça s'appelle donc Astérix. Et le but, c'est de pouvoir protéger nos satellites en cas d'attaque spatiale. J'ai tout bon ?
Tout bon.
Bon, d'abord, il faut quand même évacuer cette histoire de nom, là. Pourquoi Astérix ?
Alors, d'abord, ça s'écrit Astérix, A-S-T-E-R, et la lettre X, c'est un clin d'œil assumé aux Gaulois, parce qu'en fait, le nom du premier satellite français lancé en 1965 s'appelait Astérix, référence à la BD. Les militaires aiment bien les références historiques, surtout quand les missions ont été des succès. Donc, ce premier exercice spatial a été baptisé Astérix. Et d'ailleurs, le symbole de cet exercice, c'est une petite planète coiffée du casque ailé du petit Gaulois. Donc, il y a une référence claire à la bande dessinée.
Ça aurait pu faire une petite info pour briller au dîner.
Et ben voilà, je la case ici.
Et les militaires, ils se baladent avec le petit casque du Gaulois.
Ils ont une petite exception sur leur
bon, donc, Astérix, c'est bon. Et alors, c'est quoi ? C'est une simulation, genre la guerre des étoiles ?
Non, je sais que vous en rêvez, Cyprien. C'est pas exactement ce que vous imaginez. Le principe n'est pas de conquérir une planète ou de faire la guerre, c'est de protéger nos satellites, c'est-à-dire ceux dont on a besoin sur Terre pour observer, communiquer. Et c'est des satellites qui sont devenus indispensables dans le quotidien, à la fois pour nous, les civils, et aussi pour les militaires. En fait, depuis un an, il y a ce commandement de l'espace à Toulouse. Tout comme les marins ont en charge d'observer et de protéger les mers, eh bien ce commandement de l'espace a en charge la surveillance de l'espace et d'y protéger les intérêts français, c'est-à-dire nos satellites. En fait, c'est la même mission que les autres militaires, mais là, ça se passe dans l'immensité spatiale.
Alors, ils surveillent quoi ?
Alors, l'espace,
les étoiles, il y a des étoiles.
L'espace, c'est une zone dans laquelle tout le monde peut aller à condition d'en avoir les capacités techniques. Et en permanence, la France surveille environ 10 000 astronefs. Alors, ce sont des objets spatiaux qui gravitent autour de la Terre. Il y a des satellites, bien sûr, il y a des météorites, il y a des débris. Et à chaque fois qu'ils voient un de ces objets, ils se posent les mêmes questions. Quel est cet objet ? Quelle est sa trajectoire ? Que fait-il ici ? À qui appartient-il ? Et représente-t-il un danger pour la France ? Et si c'est une menace, eh bien ils doivent intervenir et réagir.
Mais alors ça peut être quoi comme menace ?
Alors il y a les menaces involontaires, indirectes. Je vous parlais des débris. On estime qu'il y a à peu près 500 000 débris en apesanteur autour... Alors il y en a qui sont très petits, hein, qui font 1 cm. Le problème c'est qu'à très grande vitesse, s'ils percutent un satellite, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc dans ce cas-là, eh ben, il faut changer l'orbite d'un satellite, il faut simplement le faire bouger. Mais ça peut être aussi une tentative d'espionnage. En 2017, il y a un satellite russe qui s'était approché d'un satellite français de manière assez peu amicale. C'était une tentative pour observer, espionner ce que faisaient les Français dans l'espace. Il avait donc fallu réagir et éloigner cette menace. Et les États-Unis, par exemple, l'année dernière, ont accusé aussi les Russes de faire des essais d'armes anti-satellites, et ça directement dans l'espace.
Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à la destruction d'un satellite ?
C'est un scénario absolument qui est envisagé. Alors, certaines puissances, il y en a 4, États-Unis, Russie, Chine et Inde, ils sont capables, avec un missile envoyé depuis la Terre, de détruire un satellite. En fait, les Chinois et les Américains, ils l'ont même déjà fait sur leur propre satellite.
C'est énorme.
C'était des satellites qui n'étaient plus en activité et ils ont réussi à détruire des satellites à 300, 400, jusqu'à 800 km d'altitude. Ça peut être aussi un autre scénario, c'est un satellite qui s'approche d'un autre, comme les Russes en 2017, et avec un bras articulé, on peut imaginer qu'ils viennent détériorer un satellite français. C'est exactement l'exercice Astérix. Ils sont partis partie de ce scénario. Mais il ne faut pas tomber dans le fantasme, parce que si vous détruisez un satellite, eh ben vous créez les fameux débris. Et ces débris, en fait, ils posent un problème à tout le monde. Parce que sur Terre, c'est simple, vous détruisez une cible, les débris, ils retombent. Dans l'espace, ils restent en suspension et ils deviennent des obstacles, avec le risque que vos propres matériels soient endommagés. C'est pour ça qu'il y a d'autres moyens qui sont moins radicaux. Et la France privilégie ces moyens. C'est à l'aide d'un laser, vous pouvez aveugler un satellite qui tenterait d'espionner, c'est-à-dire clairement en détruisant avec ce laser le capteur de la caméra qui est placé sur ce satellite. Il y a un autre moyen qui est de brouiller les capteurs et ça évite justement de venir capter les informations de votre satellite.
Ça ressemble quand même un peu à la guerre des étoiles. Et la France,
un peu, mais c'est pas des vaisseaux pilotés par, par des hommes verts.
Bon, Yoda. Et la France investit beaucoup là-dedans parce que ça coûte cher.
Oui, mais ça coûte cher, mais protéger les satellites avec lesquels on fait tout, c'est capital. Donc il y a une stratégie française de défense spatiale. Et la France d'ailleurs espère se doter de ce qu'on appelle de satellites patrouilleurs. Ils seraient équipés de caméras et de lasers, seraient des gardiens de l'espace qui auraient en charge.
Les gardiens de la galaxie.
Voilà, qui seraient en charge de protéger les satellites français. Il va y avoir des premiers essais en 2023 et ils devraient être complètement opérationnels à l'horizon 2030. Et pour ça, la France a décidé d'investir 4 milliards d'euros. En fait, pour résumer, la guerre spatiale, c'est un peu comme la guerre nucléaire, c'est-à-dire c'est de la dissuasion, c'est un message que vous envoyez aux autres puissances. En gros, vous leur dites, je sais ce que vous faites, je sais où vous êtes, nous aussi, nous savons le faire. C'est une manière, en fait, pour les puissances, la Chine, l'Inde, les États-Unis et la France, de se tenir en respect au-delà de l'atmosphère.
C'était absolument passionnant. Ah oui, ils voulaient pas le faire. Hein. Ah, ouais. On le dit aux auditeurs.
Non, mais on dit pas du tout.
Hier, on a été obligé avec Stéphane d'insister. Ah,
ouais. On ne dit jamais ce qui se passe en cuisine.
Ah, bon, de temps en temps, quand ça nous arrange.
D'accord, c'est ça. Ouais. 19h28. Non, pas la musique de la guerre des étoiles. C'est ça que je redoutais. Non.
19h28. Vous restez là dans un instant. La première info pour briller au dîner avec Marie. À tout de suite.
RTL Soir. On défait le monde.
La première de ce soir est 19h31. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Première info pour briller au dîner avec Marie et une info d'enfer.
Oui, je voulais vous parler de Dante. Dante, le poète florentin, père de la langue italienne. L'Italie célèbre cette année les 700 ans de sa mort. Dante, qui avait écrit la Divine Comédie en exil, loin de Florence, puisqu'il avait été condamné à mort au bûcher pour insoumission au pape en 1302. Eh bien, sachez que 7 siècles plus tard, un groupe de juristes s'est mis en tête de rejuger Dante, de refaire son procès pour le réhabiliter, le blanchir. Aujourd'hui, il est encore un homme condamné aux yeux de la justice florentine. Alors, des historiens, des avocats vont se réunir pour étudier les pièces du dossier, le code de procédure pénale du XIVe siècle et dire si oui ou non Dante a été victime d'un procès politique inique. Et cet étrange congrès se tiendra le 21 mai.
Génial cette info.
Bon, à mon avis, il y a prescription 700 ans après, mais ouais, c'est bien.
Mais quand même, c'est bien.
C'est beau.
19h32.
Allume la lumière.
Allume la lumière dans Défait le monde quand un spécialiste nous éclaire sur l'actualité.
On en a beaucoup parlé cette semaine. François Hollande s'est retrouvé sur le réseau social Twitch pour une interview improbable avec des internautes et le journaliste Samuel Etienne.
Oui, dimanche, ce sera au tour du Premier ministre Jean Castex de faire le même exercice.
Et on ne compte plus les politiques qui tentent de s'imposer sur les réseaux sociaux. Marlène Schiappa ou Jean-Luc Mélenchon sur TikTok par exemple.
Alors, trois questions. On a voulu savoir si ce genre d'intervention touchait vraiment beaucoup de monde, si c'était vraiment utile pour les hommes politiques et surtout s'il s'agissait d'un phénomène durable.
Et pour répondre à ces questions, on a contacté Bruno Cotrès. Il est chercheur au CEVIPOF, vous savez, c'est le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Il a réalisé une enquête sur le sujet. Et d'abord, 80 000 spectateurs, c'est ce qu'il y avait en direct pour François Hollande sur Twitch. Est-ce que ça fait vraiment du monde par rapport à une émission de radio ou de télé plus classique? La réponse de Bruno Cotrès.
Alors c'est vrai que c'est pas grand-chose par rapport à l'audience d'une très grande émission de télévision ou d'un plateau d'une chaîne d'info, évidemment. Il faut voir que ces réseaux sociaux, ils font aussi l'objet de multiples utilisations. On va revisionner, on va recruter. Et donc au fond, il faut voir ça dans une perspective assez dynamique. Dans le même temps, c'est devenu en fait un des outils, un des canaux de la communication politique aujourd'hui. On compare des choses qui ne sont pas tellement comparables. Il faut beaucoup plus voir les réseaux sociaux comme des outils qui viennent en complément. Le vecteur principal de l'information, ça reste la télévision très largement. C'est à côté, les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que ça remplace. Ce sont des outils qui viennent s'entrecroiser, compléter les canaux les plus classiques de la communication politique aujourd'hui.
Voilà, des outils complémentaires donc, mais est-ce que c'est vraiment indispensable que les politiques s'y pressent?
Eh bien visiblement, c'est devenu un passage obligé et Bruno Cotrès, chercheur au CEVIPOF, vous explique pourquoi.
eh bien, ça permet d'aller capter des publics qui ne vont pas lire un grand quotidien tous les jours, qui ne vont pas aller en librairie acheter des livres sur la politique. On sait qu'il y a des segments de la population qui sont assez loin de la politique, qui trouvent que la politique, c'est un univers à part, qu'on n'y comprend rien, qu'il faut être un spécialiste, un expert. Donc, il y a là l'un des intérêts de l'utilisation de ces réseaux sociaux, essayer d'aller capter des publics qui sont un peu loin de la sphère politique. Le bénéfice électoral, il est beaucoup plus, je dirais, indirect. C'est le fait d'arriver à imposer une marque de fabrique, d'arriver à incarner un style ou d'arriver à incarner le porteur d'un projet, le porteur d'une préoccupation, de construire progressivement une personnalité, un style. C'est un investissement à la fois beaucoup plus long terme, et surtout, ça veut dire qu'aujourd'hui, le métier politique est devenu un métier où il faut faire usage de ces différents canaux de la communication.
Mais Cyprien, est-ce que ce n'est pas tout simplement un phénomène de mode ?
Alors, pour notre chercheur en sciences politiques, pas du tout. Et c'est même très significatif de ce qui est en train de se passer.
Je pense que c'est un phénomène qui est assez durable. Nous sommes, au fond, les contemporains d'une transformation assez importante du lien politique. C'est pas seulement d'ailleurs le lien politique qui s'est transformé, c'est tout, on va dire, tout ce qui lie le citoyen à des autorités. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de l'horizontal, beaucoup plus du fluide. Le style et la communication d'un homme politique, c'est très important. Et rappelons qu'en France, avec le rôle et le poids de l'élection présidentielle, eh bien, arriver à incarner quelque chose à travers la communication, c'est fondamental pour l'élection présidentielle. Il s'agit d'élire un homme ou une femme.
Allume la lumière, les politiques et les réseaux sociaux. On a appris plein de choses une nouvelle fois. 19h35.
Stéphane Boutsenc au César.
C'est incroyable. C'est toujours un peu calme, mais je voudrais quand même vous raconter comment ça va se passer dans la salle. Parce que si vous connaissez l'Olympia, c'est une salle quoi qui fait à peu près 2000 places. Là, vous imaginez que le balcon est vide totalement. Et qu'en bas, on a enlevé les sièges. On en a remis certains par petits groupes de 3, 4, 5, 6, avec des petites tables un peu ambiance cabaret ce soir. Et que seuls seront admis à l'Olympia ce qu'on appelle les remettants, donc les gens qui vont donner les trophées et les nommer. Donc il n'y a pas d'accompagnant, il n'y a personne. Ça va être ambiance un peu plus cosy.
Ça va être triste, quoi.
Non, ça va pas être triste, mais pas une seconde.
C'est ce que vous nous dites, Stéphane, en creux.
Non, pas du tout. Vous trompez, Brice du Génie.
On revient vous voir, Stéphane Boutsenc, bien sûr, et les Césars, c'est en direct sur RTL à partir de 20h.
À suivre dans On défait le monde.
Une deuxième info pour briller au dîner.
Bam.
Le loser de la semaine.
Bam.
Le jeu.
Et quoi d'autre?
Et c'est déjà pas mal tout ça. 19h36. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième à 19h38, c'est avec Laurent.
Et avec cette question, connaissez-vous les amis Pépé le Putois, l'un des personnages des Looney Tunes?
Non mais bras, ma soeur, il ne faut pas lutter contre sa destinée. Embrassez-moi.
Ah ouais, le lourd.
Évidemment, c'est le dragueur un peu lourdeau, c'est ça.
La polémique cette semaine sur les réseaux sociaux. Pépé le Putois n'apparaîtra pas dans les prochains dessins animés des Looney Tunes, ni la suite du film Space Jam. Il est jugé obsédé, archétype du dragueur lourd. Il embrasse sans consentement Pénélope, une chatte noire. Mais l'info arrive, mesdames, messieurs. D'où vient ce prénom Pépé?
Mais, je sais pas, ça fait un peu italien, séducteur italien.
Alors, du film Pépé le Moko avec Jean Gabin en 1937 et du remake américain un an après, Casbah. C'est vrai que ça a été une source d'inspiration pour les scénaristes. Mais deuxième info, Pépé le Putois a une influence sur une célèbre saga. Pirates des Caraïbes.
J'adore cette chanson.
Voilà, rôle de Jack Sparrow, Johnny Depp s'est inspiré de plusieurs personnalités pour son rôle, dont Pépé le Putois.
Je suis sûr que vous êtes du genre à faire du sport, Cyprien, avec cette musique.
Ouais.
Non, mais c'est sûr.
Non, mais dans mes chroniques, je l'ai souvent mise parce que ça marche avec tout.
Ouais, bah, c'est ça.
Vous pouvez la mettre sur n'importe quoi, c'est ouf.
Le mec est en train de nous dire qu'il cherche pas de musique, mais la même pour tout. Ok, très bien. Tout. Super.
Donc, c'est là, je dis, je vois pas le rapport entre Johnny Depp et Pépé le Putois, par contre.
19h40.
RTL. Le loser de la semaine.
Le loser.
Vous avez dit que ça marchait pour tout.
Ouais, c'est pas là-dessus. Joli Grégory Caradoni. Le loser, le grand perdant de la semaine est Marie, vous qui parlez portugais couramment. Et c'est important de le rappeler.
C'est important de le rappeler.
Vous avez bondi en découvrant les propos du président brésilien Jair Bolsonaro.
Et oui, Jair Bolsonaro qui une fois de plus nous a gratifié d'une nouvelle outrance. On connaissait sa gestion très chaotique de la pandémie, ses positions anti-confinement, anti-couvre-feu. Mais pour sa dernière provocation, le président brésilien s'est surpassé.
Vous n'allez pas rester à la maison, vous n'allez pas être des lâches. Ça suffit les chichis, ils vont pleurnicher jusqu'à quand ? La Bible dit n'ayez pas peur, le peuple veut travailler, putain !
Eh oui, bien dit, ça suffit les chichis, on va arrêter de pleurnicher sur les 270 000 morts du Covid au Brésil, hein, marre de ces génias. Et ce n'est pas comme si le Brésil subissait cette semaine une explosion sans précédent de la maladie.
Mercredi, le pays a battu des records de mortalité avec 1910 décès en 24 heures.
2286 morts. Record battu.
75% des lits en soins intensifs y sont occupés.
Les tombes sont déjà creusées par dizaines, prêtes à accueillir les prochaines victimes du virus.
Des fosses creusées à la hâte. Un nouveau variant apparu à Manaus en Amazonie, deux fois plus contagieux. L'OMS qui alerte sur le risque que le Brésil fait courir à ses voisins d'Amérique latine. Mais n'ayez pas peur, c'est la Bible qui vous le dit.
Bon, et en plus, Jair Bolsonaro, c'est vrai qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Hein.
Oui, Jair Bolsonaro a accumulé tellement de provocations que j'ai décidé de lui consacrer une petite rétrospective pour célébrer l'ensemble de son œuvre. Mars 2020, Jair Bolsonaro, modeste.
Pelo meu histórico de atleta.
J'ai un corps d'athlète.
Contaminado pelo virus.
Donc si j'attrape le Covid, je ne sentirai rien.
Nada.
Ce sera comme une grippette.
Muito acometido de uma gripezinha.
Avril 2020, Jair Bolsonaro, visionnaire.
Il me semble que cette histoire de virus est en train de disparaître.
Juin 2020, Jair, sensible.
Est-ce que des gens vont mourir ? Eh ben oui, des gens vont mourir. C'est la vie, on va tous mourir un jour.
Novembre 2020, Jair, fier de son pays.
Arrêtons d'être un pays de tapettes.
Et écoutez, on attend avec impatience la prochaine sortie pour compléter le tableau.
Incroyable quand même.
Incroyable, ouais. Titre de loser de la semaine décerné par Marie Mollet. On a un cadeau pour les auditeurs, bien sûr.
Un cadeau connecté.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Oui, monsieur cadeau, Grégory Caranoni.
C'est lui.
Vous avez quoi pour régaler nos auditeurs ce soir?
Qui est-ce qui a chanté par-dessus le jingle, là?
Pourquoi ça a gâché le jingle, peut-être? Ouais,
c'est un scandale.
Oui!
Ce soir, on vous offre une tablette facilotable.
Ah.
C'est une tablette tactile équipée du système facilotable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un écran très simple, complet. Et très facile dès le démarrage, c'est une tablette facile d'utilisation, facile à prendre en main. Plus d'infos sur facilotab.com.
Et ça permettra de rester connecté quand on sera reconfiné, si jamais on est reconfiné pour de bon un jour. Et on pense à tous ceux qui passent le week-end confinés aussi, dans le sud et dans le nord. La fameuse question dont défait le monde. C'est un petit édito.
On pense à d'autres personnes aussi.
Oui, je sais, mais bon, voilà, c'est dur quoi. Comment s'appelle la mission, et c'est pour ça qu'on est là. Comment s'appelle la mission de l'armée spatiale française dont Brice vous a parlé en début d'émission? Est-ce que c'est mission Astérix, mission Cléopâtre ou mission Impossible? Mission Astérix, mission Cléopâtre ou mission Impossible?
Je n'ai pas collaboré à cette question.
Non mais pas mal. Si vous avez la bonne réponse, 32-10, on tirera au sort parmi les bonnes réponses et puis on passera un coup de fil au vainqueur en toute fin de mission.
Le standard est déjà ouvert, 3-2-1-0 sur votre téléphone, 19h43.
RTL Soir, on défait le monde.
C'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info ou sur quelqu'un qui a fait la une et qui a quelque peu disparu de l'actualité.
Et souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, le 20 janvier dernier.
I want to thank all of the great people of Washington, D.C. Have a good life. We will see you soon.
Salut, Donald Trump qui remercie les gens de Washington.
Vous parlez bien américain, salut.
Il leur souhaite une bonne vie, a good life et à bientôt. Oui, Brice, il était omniprésent, partout, tout le temps. Et du jour au lendemain, rideau. Alors, il vient quoi, Donald Trump ?
Eh bien, Donald Trump, il est parti se terrer dans sa grande propriété de Mar-a-Lago. C'est en Floride, c'est dans le sud-est des États-Unis. C'est au soleil, il y a un golf, une retraite tranquille. Sauf que dès son arrivée, ben, il n'a pas été très bien accueilli par le voisinage. En fait, ses voisins, ils ont envoyé un courrier à la mairie de Palm Beach, la commune où se trouve la villa, pour dire qu'il n'avait pas le droit de vivre ici à l'année. Parce qu'en 1993, eh bien, Donald Trump, il a fait de cette résidence un club privé, c'était plus avantageux financièrement et fiscalement, sauf que avec ce statut, eh ben, les voisins lui contestent le droit d'y vivre à temps plein. Ils disent qu'il n'a le droit d'y vivre que trois fois une semaine, pas plus. Donc clairement, déjà dans sa vie d'après, il n'est pas vraiment le voisin idéal.
Ouais, à deux doigts d'appeler Julien Courbet pour un truc avec les voisins. Donc il reste en Floride tout le temps.
Oui, alors il est rentré pour la première fois à New York, sa ville natale, cette semaine, c'était mardi, dans son triplex, évidemment qu'il a gardé dans la Trump Tower, mais aucune communication sur son emploi du temps, son programme, ses ambitions, ses projets. Donald Trump, c'est inhabituel, mais il reste
très discret.
Mais il fait quoi de ses journées alors ?
Alors il joue au golf. Énormément. Il y jouait déjà beaucoup quand il était président. Je me suis renseigné parce que Cyprien m'a posé la question, évidemment, l'info capitale. Il est handicap 4, ce qui apparemment est un niveau.
Ah, ça faisait pas de ça, hein ?
Ouais, voilà. Ce qui apparemment est un niveau. Moi, j'y connais rien, mais pour un joueur amateur, c'est un très bon niveau.
Ah oui. Meilleur Stéphane.
Ouais, c'est pas très compliqué. Selon les spécialistes, il a un jeu qui est peu académique, tonique, voire agressif. Et en fait, il y a une citation de Trump, il dit lui-même qu'il ne s'est jamais vraiment intéressé à la technique et qu'au golf, il est comme dans la vie, il se fie à son instinct. Donc ça donne un peu une idée de son jeu.
Je suis sûr qu'il triche.
Pour le reste, il regarde la télé et il entretient ses affaires et il prépare sa défense pour d'éventuels procès à venir.
Justement, Brice, il en est où sur le plan judiciaire ?
Alors, la procédure d'impeachment, on l'avait vu, n'a pas abouti à son inéligibilité, mais en droit commun, l'ex-président est sous le coup de poursuites pénales pour fraude fiscale. En fait, ça fait des mois que le procureur de New York demande à Donald Trump de fournir ses avis d'imposition, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Et la Cour suprême américaine, qui est pourtant conservatrice, eh bien elle vient d'obliger Donald Trump à fournir ses documents. Il va devoir donner toutes ses pièces fiscales de sa société et ça pourrait être un problème parce qu'il y a de forts soupçons de fraude, d'arnaque à l'assurance qui pèse sur la Trump organisation et pour cela, l'ex-président des États-Unis pourrait être mis en examen.
Et au niveau de la politique ?
Alors ça dépend un peu des affaires judiciaires, mais il n'a pas abandonné. En fait, il y a 3 semaines, il a publié un communiqué dans lequel il démonte le chef de file des Républicains au Sénat. Il s'appelle Mitch McConnell. Vous savez, c'est lui qui accuse Trump d'être responsable de cet assaut sur le Capitole au mois de janvier. Et donc, Donald Trump dit de lui que c'est un politicien Mossad et que si les Républicains restent derrière lui, ils ne gagneront plus. Traduction, alors que si vous venez derrière moi, là, peut-être qu'un jour, nous gagnerons à nouveau. Donc, on voit qu'il a évidemment de la suite dans les idées, peut-être pour 2024. Et l'autre signe, c'est que l'équipe Trump, eh ben, elle continue d'envoyer plein de mails pour obtenir des fonds auprès de leur soutien. Donner de l'argent, on va en faire quelque chose. Et il écrit dans ses mails que seul Trump peut restaurer la puissance républicaine. On voit qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot politique.
On sait s'il a revu sa position sur la pandémie de Covid ?
Ben, en tout cas, pas assez pour participer à cela.
Right now, the COVID-19 vaccines are available.
Ce sont des vidéos tournées par tous les anciens présidents des États-Unis pour inciter les Américains à se faire vacciner contre le COVID-19. Alors, il y a George Bush qui rêve de revenir au stade des Texas Rangers. Il y a Barack Obama qui veut en finir avec la pandémie.
This vaccine means hope.
Il y a Bill Clinton qui nous parle d'espoir. Et il y a même Jimmy Carter, âgé de 96 ans, qui participe. Mais Donald Trump reste fidèle à sa ligne de conduite. Il se démarque, reste dans son coin, loin de tous ses autres présidents qu'il n'a jamais vraiment reconnus.
Et alors la question que tout le monde se pose, la question people.
Non.
Et son divorce. Parce que Melania, elle n'avait pas l'air ravie avec Donald.
Alors c'est la question que vous posez, que vous m'avez posé toute la semaine, donc j'ai travaillé. En fait, il y a des rumeurs autour de ce divorce, notamment le fait qu'elle a demandé à disposer de bureaux et d'un cabinet indépendant de la résidence de Mar-a-Lago. En dehors de cette résidence, ça a alimenté ces rumeurs de projet de divorce. Et là, typiquement, Cyprien, vous m'obligez à faire ce que j'étais, c'est colporter des rumeurs. Oh. Donc, concernant le divorce de Donald Trump, je vous réponds clairement, je ne sais pas.
Voilà. Pire retour signé Brice Dégénier, le grand reporter du service étranger. Restez là. Troisième info pour briller au dîner dans un instant, ça concerne le 7e art. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Tout à 19h50, troisième info pour briller au dîner de ce On défait le monde de ce vendredi soir avec les Césars.
Oui, alors vous le savez, hein, les Césars, c'est le nom du trophée, cette compression métallique réalisée par le sculpteur marseillais César. Oh, mais pourquoi lui ?
C'est un patrimoine national.
Exactement, hein. c'est un ami. Pourquoi lui ? Et surtout, pourquoi a-t-il donné son nom à toute la cérémonie ? Eh bien, tout simplement parce que d'abord, c'était un ami proche de l'inventeur de la cérémonie, Georges Craven, qui lui a demandé de fabriquer un trophée. Et il a finalement appelé toute la célébration César pour faire écho aux Oscars à Hollywood. César, Oscar. Et en plus, c'est un clin d'œil indirect au chef-d'œuvre de Pagnol, le film César.
C'est signé, Cyprien signe cette info pour briller.
Oui, rapide. Surtout efficace. Rapide.
Efficace. 19h51.
Marche ou rêve.
C'est quand on met en avant vos initiatives et vos projets.
Et ce soir, Laurent, gourmand, croquant, mais pas que, une bonne action aussi.
Direction Laval, Sandrine est boulangère, présidente de la Fédération des boulangers de la Mayenne, et plusieurs artisans et bénévoles vont se lancer le 29 août dans le défi qui va exciter, faire saliver Stéphane Carpentier, battre le record du monde du plus long sandwich au riz Juliette. Bonsoir Sandrine. Oh.
Bonsoir tout le monde.
Je vous aime Sandrine, je vous aime.
Alors c'est la ville de Tours qui détient actuellement le record, 74,40 mètres réalisés en novembre par la confrérie des rillettes de la ville. Sandrine, bon, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer ?
Ce qui m'incite à nous lancer, c'est que on fait des très bonnes rillettes nous aussi en Mayenne et on a du très bon pain, donc du coup on va gagner.
Mais c'est la première question que j'allais vous poser. Il y a des rillettes, parce que moi je connais alors Laval, le Mans, c'est pas loin, mais les rillettes du Mans, moins les rillettes de Laval, vous voyez.
Oui, mais vous viendrez goûter si vous voulez.
Ah bah
on
j'espère
vous
bien.
Alors juste avant, la ville du Mans détenait le record avec 72,12 mètres. Et vous visez combien du coup
Nous on vise pas très haut. On va faire 80 mètres pour essayer. En fait, il faut que le Mans puisse récupérer son record, on va essayer de leur laisser un peu de chance quand même. Vous voyez ce que
d'accord.
Je veux dire.
Ah oui,
on va être sympa quand même.
Je précise pour les auditeurs qui nous regardent sur RTL.fr que sur les écrans derrière nous, c'est vous qui est en photo.
Oui, oui. Ah. C'est bien Sandrine.
Ah. Mais alors, pardon, 80 mètres, ça veut dire qu'il faut faire une baguette de 80 mètres ?
Non, en fait, il faut 160 baguettes à peu près.
D'accord.
Voilà, qu'on va superposer en fait les unes aux autres avec des petits anneaux et puis il y a un huissier qui passera pour nous dire qu'on a gagné.
Et, voilà. Tout sera bien local, hein, ce sera des produits 100% Mayenne.
Bien sûr, on a notre baguette mayonnaise avec des blés de la Mayenne, des rillettes avec des cochons de la Mayenne, tout sera local.
Et défi technique, mais aussi défi humain, vous serez nombreux à participer, j'imagine.
Une cinquantaine de bénévoles, et puis tout sera vendu, les sandwichs, pour une association en fait.
Et c'est vendu au mètre ?
Ça sera vendu en petits morceaux.
D'accord.
Ah, je sais désolé, pas. Stéphane.
Non, mais je voulais pas acheter les 80 mètres, hein, je vous rassure. D'accord.
L'essentiel, voilà. C'était de faire aussi une bonne action. Et
ouais,
Sandrine,
puis sur un site super sympa, on va sur l'hippodrome de Laval, donc il y aura une course de chevaux. Enfin, ça va être très très sympa. Ouais.
Et vous êtes présidente de l'association des commerçants, des boulangers.
Des boulangers.
Oui. Ça, c'était important de mettre le métier en valeur aussi.
Oui, il faut qu'on parle de nous et toujours en bien. Voilà, donc je trouvais que c'était un défi très sympa et les gens vont être contents de manger du pain et des rillettes avec, voilà. Donc oui, c'est important de faire parler de notre travail. Ouais.
Comment vous financez tout ça ?
On finance, en fait, on va avoir des partenaires, hein, les meuniers par exemple qui vont donner un peu de farine, j'imagine. On est sur le début, hein, on va travailler là-dessus, mais tout le monde va donner un peu de coup de main. Et de partenariat.
Le Guinness Book va venir ou pas ?
Guinness Book, le fameux ? Je ne les ai pas encore contactés, il faudrait peut-être que je le fasse d'ailleurs.
Ah bah oui, allez-y.
Cyprien est très Guinness Book, c'est sa bible.
C'est une pub d'enfer, hein. Je le reçois tous les ans, je l'offre à mon fils, il est ravi.
D'accord, ok. Écoutez, je vais les appeler.
On va essayer de faire ça.
Bon, en tout cas, c'est formidable. Une tentative de record du plus long sandwich aux rillettes.
Si c'est pas une tentative, on va réussir.
Ah bah oui, c'est vrai. Non, c'est on peut déjà l'annoncer, c'est une victoire.
C'est une victoire. C'est une victoire, mais carrément.
Bravo. Rendez-vous le 29 août à l'hippodrome de Laval. Voilà,
la photo du studio, on vous voit aussi avec beaucoup de bonbons devant vous, hein, sur la photo.
Oui,
Sandrine est ce qu'on appelle une boulangère 2.0, hein, très connectée sur les réseaux sociaux.
D'accord.
C'est ça,
et alors, pour la petite histoire, le hasard fait bien les choses, vous êtes près de la Mayenne, si je ne m'abuse.
Je suis près de la Mayenne, bien sûr.
Voilà, il y a le bateau, ouais.
Et il y a le bateau de Maxime Sorel.
Ouais. Ah,
VNB Mayenne qui a été déposé juste à côté.
Hier après-midi.
Voilà, hier après-midi.
Mais ça n'a rien à voir avec nous.
Parce que Maxime Sorel, on l'a souvent suivi dans cette émission, c'est pour ça que vous me permettez.
Belle aventure à vous, à très vite. Merci, on prendra des nouvelles évidemment pour ce super sandwich. Rillette.
Ça s'agite, le multiplex César avec Stéphane Boutsov qui nous appelle.
Et bien, à l'instant, figurez-vous que Michel Hazanavicius vient d'arriver, il dépose son manteau. Je vous fais vivre vraiment ça comme ça arrive. Son manteau au vestiaire et Neil Schneider, qui est nommé dans la catégorie meilleur acteur, vient d'arriver. Il me semble apercevoir également François Ozon. Est-ce que c'est pas du casting ?
Ah, c'est génial.
Et je vais vous livrer.
Très en avance, hein ?
Ben oui, c'est ça, on est quand même à plus d'une heure. Et je vais vous livrer deux infos, vraiment. Vraiment. Parce qu'il y aura de la musique, beaucoup de musique ce soir. C'est avec Benjamin Biolay et le directeur musical de la soirée avec orchestre.
Ah,
je vais vous dire qu'on aura Catherine Ringer en ouverture et qu'on aura Alain Souchon un peu plus tard.
Bien, ça c'est merci. De l'info. C'est
et voilà, n'hésitez pas à demander.
Vous avez assisté à un concert, vous êtes un privilégié. Hein.
Ouais. Mais bien, et à l'Olympia en plus.
Ouais. En plus wow. Ouais. On peut leur mettre la petite musique de la tourniquette ou pas ? À Stéphane Boutsock, juste pour le plaisir, pour qu'on le quitte. Voilà, c'était cadeau.
Salut Stéphane, est-ce que je peux en faire ma sonnerie de téléphone ?
Mais bien sûr.
Je prends.
Ça va vite agacer.
Bonne soirée.
Tout le monde,
hein.
On va demander à Christian Olivier, hein, ça quand même. Peut-être.
Ça sera suivi sur RTL, les Césars.
Absolument, à 20h avec toute l'équipe. Merci, on se retrouve vendredi prochain, les amis.
Oui, absolument.
Pour défaire le monde une fois de plus. Et il y aura le podcast très vite.
Très vite,
sur
le podcast.
Toujours
à fond.
À la semaine prochaine.
On défait le monde dans RTL Soir.